Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Serre, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, entre bien. Me serrer la main, me serrer la main, me serrer la main.
Ça, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, auteur du blog Mademoiselle Love, et je connais l'envers du décor. Et vous, vous écoutez Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Dans ce troisième épisode, j'ai une conversation sans tabou avec Claire, une amie. Comment passe-t-on d'une vie de célibataire à une vie de belle-mère ? Elle nous raconte son intégration dans une tribu déjà formée, ses désirs de maternité et son quotidien dans une famille recomposée. Claire est aussi devenue maman et elle nous parle ici de sa manière de gérer ses différents rôles, une semaine sur deux. Bonne écoute ! Bonjour Claire, bienvenue dans le tourbillon et merci beaucoup d'avoir accepté de raconter ton histoire.
Bonjour Shane, merci à toi d'avoir pensé à moi. Alors toi Claire, tu étais la parisienne ultra indépendante, working girl et un peu électron libre. Et puis tu as rencontré ton copain qui, lui n'était pas tout seul puisqu'il avait déjà deux enfants. Comment tu as géré cette rencontre amoureuse ?
Oui, moi en effet, j'étais célibataire jusqu'à quasiment 33 ans. Et puis j'ai rencontré Greg qui a 10 ans de plus que moi et qui donc avait eu avant moi une vie et qui avait en effet déjà deux enfants.
Et alors le fait qu'il ait deux enfants, toi qui passes du célibat à... en couple, déjà en couple, et en plus avec deux enfants, quelles impressions tu as eues au départ, comment tu...
Au début, j'y pensais pas tellement, ou en tout cas, je crois que je réalisais pas, tant qu'on est... quand on tombe amoureuse, on pense à rien, on pense surtout que tout est possible, qu'on peut tout accepter, et puis les enfants, à ce moment-là, tant que je ne les connaissais pas, c'était pas encore vraiment concret. Donc c'est vrai qu'au début, c'était pas tellement un sujet entre nous, même si je connaissais la situation, même si Greg, on m'en parlait beaucoup, partageait bien sûr avec moi le quotidien avec ses enfants. Pour moi, c'était encore un peu lointain. Mm. C'était un concept un peu lointain, oui.
Et oui, tu t'étais jamais dit, jamais je me mettrais avec un homme qui a déjà des enfants.
Passé 30 ans, si, ça commençait un peu ça commençait à m'effleurer l'esprit parce que je connaissais des cas autour de moi et puis que je me disais, les années passent, il y a quand même de grandes chances pour que je rencontre quelqu'un qui ait eu une vie avant. Clairement, c'était pas un rêve, hein, c'est pas forcément la situation idéale dont on rêve quand on est petite fille, on rêve plutôt du prince charmant qui est totalement libre et libéré de toute contrainte pour s'occuper de sa princesse. Mais j'y ai vu aussi progressivement des avantages, notamment par rapport à l'expérience que Greg avait de la vie, du couple, de la famille. Voilà.
Ok. Et alors, du coup, comment s'est organisée la première rencontre avec ses deux enfants et comment tu l'as vécu ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, justement, j'essaie de me rappeler. Il me semble que Greg avait voulu que ça se passe de façon un petit peu informelle. C'est-à-dire, c'était au moment où il a emménagé dans une nouvelle maison avec ses enfants. Il avait organisé quelque chose, un événement avec des amis. Et j'ai été présentée dans ce contexte-là aux enfants pour que ce ne soit pas tout de suite un face-à-face qui aurait pu... nous mettre mal à l'aise les uns les autres. Donc de mémoire, la première rencontre s'est passée comme ça. Il avait dû bien préparer les garçons avant, puisque ce sont deux garçons. Et puis, ils ont aujourd'hui 12 et 16. Et donc, à l'époque, ils devaient avoir 13 et 9. Mmh. Ouais, c'est ça. Et donc
le
ça,
début
c'est
de l'adolescence.
En début plus, de l'adolescence, ouais. En plus, ouais. Mais après, je pense que le fait que ce soit des garçons, finalement, m'a facilité la tâche parce que ils ont une très jolie relation avec leur papa qui leur parle énormément, donc ils étaient, je pense qu'ils étaient, ils étaient bien préparés. Et puis je pense qu'il n'y a pas de jalousie vis-à-vis de moi comme une fille aurait pu avoir vis-à-vis de la nouvelle compagne de son père.
Oui, qui lui vole son papa.
Qui lui vole son papa. Voilà, les garçons, comme me dit souvent Greg, c'est quand même beaucoup plus basique. Ils se prennent pas trop la tête. Voilà, du moment qu'on est sympa.
Ouais.
Et donc voilà, le premier rencontre, je crois que c'était ça, un peu informel. Ils m'ont rencontré au milieu d'autres amis. Et puis après, il me semble qu'assez vite, on a eu une occasion de se retrouver seuls, les enfants et moi. Et je me rappelle avoir voulu jouer avec eux et que ça s'était pas hyper bien passé.
Ah oui.
Ouais, je me rappelle que le petit, qui avait donc 9 ans à l'époque, avait mal réagi parce qu'il perdait, donc il me semble qu'il avait balancé le jeu, il commençait à faire la tête et tout, et que là, bon, là ça avait été un peu délicat, mais le grand avait été super pour l'aider à se calmer et voilà.
Et tu penses que c'était par rapport à toi en tant que femme de son papa, ou c'est juste parce que lui te connaissait pas, finalement elle aurait pu être avec n'importe qui?
Je pense que c'est pas par rapport à moi, c'est par rapport encore à l'acceptation de sa nouvelle situation familiale, en fait. Voilà, en fait, la séparation encore récente de ses parents. Pas forcément moi particulièrement, et pas forcément non plus le fait que son père est quelqu'un d'autre, mais plutôt voilà, le fait d'une séparation encore un peu fraîche, et du coup, un nouveau schéma de vie qu'il n'avait pas encore complètement... qui ne maîtrisait pas encore complètement bien, quoi.
Et de ton côté, à toi, comment était perçue l'arrivée de Greg et de ses enfants? Est-ce que on t'a fait des remarques? Est-ce que tout le monde y est allé de son avis, ni au niveau de ta famille ou de tes amis?
Ça s'est étonnamment bien passé. D'abord parce que Greg, donc mon conjoint, qui est quelqu'un de très très ouvert, très jovial, très social, a tout de suite été très bien accueilli et par mon entourage amical et par mon entourage familial. Donc voilà, tout de suite, tout le monde a tout de suite accepté et aimé, et du coup tout le monde a accepté la situation telle qu'elle était. Et aussi parce que, encore une fois, moi, célibataire depuis un certain temps, les gens étaient heureux pour moi quand j'ai rencontré quelqu'un qui me faisait du bien, qui me voulait du bien. Donc finalement, la situation, ça s'est un peu passé, c'est un peu passé derrière le reste, la situation de Greg.
Et du coup, vous avez officialisé les choses et tu es devenue donc la belle-mère des deux garçons. Comment ça s'est passé avec eux les premières semaines, les premiers instants?
Plutôt bien, parce que les garçons étaient vraiment super. Et du coup, j'ai trouvé que finalement, les choses se passaient de manière plutôt fluide. Et voilà, ça n'a pas été un gros sujet à ce moment-là dans notre relation. Mais aussi parce que moi, j'étais sur mon petit nuage, j'avais pour ma part, pour le coup, zéro contrainte. Et du coup, j'étais prête à me donner corps et âme dans cette relation, qu'elle soit d'un point de vue du couple et d'un point de vue même de la situation familiale de Greg. Moi, j'avais pas de barrière, moi, pour le coup, j'avais pas, en tout cas, moins de bagages, donc j'étais prête et disposée à donner de ma personne pour que tout se passe bien. Et les garçons m'ont beaucoup aidée.
Et alors, du coup, vous décidez de vivre ensemble. À ce moment-là, est-ce que vous avez fait tout un travail de préparation avec ces enfants, ou ça a été aussi hyper fluide et ça s'est fait petit à petit? Est-ce que tu as apporté d'abord ta brosse à dents et puis après tes souliers, ou...
Ça s'est fait progressivement, parce qu'au début, j'avais toujours mon appartement, donc je venais de temps en temps. Je venais de temps en temps pour qu'on s'apprivoise petit à petit les uns les autres. Et puis, mais j'ai quand même emménagé finalement assez vite, avec le recul, quand j'y pense. Pour eux, ça a été quelques mois, donc ça a été assez rapide. Et non, les choses se sont assez bien déroulées, assez bien mises en place.
Et comment tu trouvais ta place, toi, du coup, au milieu de cette tribu qui... Enfin, ils ont déjà une histoire, ils sont hyper soudés, comme tu disais. Comment tu trouves ta place, toi, à ce moment-là? Est-ce que ça a été un peu difficile?
Je trouve ma place parce qu'encore une fois, j'ai vraiment eu beaucoup de chance avec ces deux garçons qui sont gentils, qui sont pas compliqués et qui m'ont très vite et très bien acceptée au sein de la maison, au sein aussi de cette nouvelle vie de famille où ils étaient encore quand même tous les deux un peu meurtris par la séparation de leurs parents. Mais non, ils m'ont énormément facilité le travail, donc j'ai eu le sentiment quand même assez vite de trouver ma place.
Donc tu passes de célibataire à belle-mère, et à un moment, toi aussi tu as envie de devenir maman. Est-ce que tu as eu peur que ton conjoint ne veuille pas avoir d'autres enfants, étant donné qu'il en avait déjà deux? Et est-ce que ça a été un sujet entre vous?
Le sujet des enfants est arrivé assez vite parce que de toute façon Greg intelligemment par rapport à ma situation savait que moi j'avais un désir d'enfant et il a vite compris qu'en s'engageant avec moi ce serait un sujet et qu'il n'avait pas envie de me priver de ça, de ce désir d'enfant. Et voilà, ça c'était une réalité assez concrète rapidement pour lui. Et du coup, non, ça a pas été une inquiétude pour moi. C'est plutôt après, une fois que je suis tombée enceinte, que d'autres questions sont arrivées.
C'est ce que j'allais te poser comme question, justement. C'est du coup, vous avez le projet d'avoir des enfants, tu tombes enceinte, et donc ma question c'était, est-ce que tu avais des appréhensions par rapport justement au futur papa qui a un peu du coup déjà tout connu, tout vu, il a déjà eu l'expérience de l'accouchement et de tout ce qui s'ensuit. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a un peu angoissée, ou au contraire, ça a pu te rassurer par moments? J'imagine qu'il y a un petit peu des deux.
Un peu les deux, exactement. On commençait à avoir on discutait d'un projet d'enfant, et finalement l'enfant est arrivé très vite, puisqu'à partir du moment où on s'est dit en début d'année, voilà, on aimerait avoir un bébé, mais plutôt commencer à y travailler, on va dire, à la fin de l'année, parce qu'on était encore un jeune couple, je suis tombée enceinte très vite, un mois et demi après qu'on ait commencé à évoquer sérieusement le sujet. Donc, grosse surprise, on était tous les deux très heureux parce que de toute façon, on l'envisageait, donc on était prêts. Pas forcément prêts à ce que ça arrive si vite, mais prêts en tout cas à ce que ça arrive. Voilà, ça c'était première surprise. Greg s'est réjoui autant que moi, même si il me disait que il aurait bien aimé qu'on profite un peu plus de notre vie à deux, mais il était quand même très heureux puisqu'il le désirait aussi. Voilà, après, la grossesse, je pense que toutes les femmes qui ont attendu un enfant savent qu'on a des hauts, des bas, des sans entendre, on ne sait pas pourquoi, des angoisses qui surviennent, sans raison. Moi, c'est vrai que à la fois l'expérience de Greg était rassurante, et puis ce qui était parfois un peu pesant, c'était par rapport à son expérience, le fait que du coup, il anticipe ce qui allait se passer et me disait... mais me disait aussi, je pense qu'il transmettait ses propres angoisses, ça va se passer comme ci, ça va se passer comme ça.
Là, on parle de l'accouchement
Non, pas l'accouchement, vraiment la maternité. Ouais. Tu risques de... Tu vas connaître tel et tel changement dans ta vie, tu risques de devenir comme ci, comme ça. Voilà. Et ça, j'arrêtais pas de lui dire, moi, mais arrête, j'ai besoin... oui, t'as certainement raison, mais j'ai besoin de découvrir les choses par moi-même. Mmh. J'ai envie... En fait, ce qui était dur, et ce qui parfois l'est toujours aujourd'hui, c'est ce côté, pour moi, c'est la première fois, et pour lui, ça ne l'est pas. Et parfois, il y a un côté un peu, un sentiment, c'est pas très joli, mais un peu de jalousie du fait que moi, j'aurais voulu vivre toutes ces premières fois avec lui. Lui n'a pas arrêté de me dire, et continue de dire, que c'est très différent et que ça reste une première fois, parce que... C'est un nouvel enfant, parce que je suis sa nouvelle compagne, et voilà. Mais pour moi, il y avait ce sentiment parfois un peu frustrant de me dire, Voilà, il anticipe des choses qu'on va vivre parce qu'il les a déjà vécues. Moi, j'ai besoin de les découvrir par moi-même parce que c'est la première fois. Et j'aimerais parfois qu'on ait tous les deux cet œil neuf. Mmh. Et sur et c'était vrai pendant le temps de ma grossesse, mais encore aujourd'hui face à la maternité et la parentalité.
Ouais, c'est toutes les étapes de vie, ouais. Ses premiers pas, c'est l'allaitement, j'imagine. Ouais. Enfin, tout, plein de conseils là-dessus sur les nuits, s'il fait pas ses nuits.
Sur les nuits, je me rappelle une anecdote quand Balthazar était tout petit, au début, mais comme plein de bébés en fait, je crois, il hurlait au moment du bain. Et je me rappelle Greg m'avoir dit, mais je comprends pas, mes enfants ils adoraient le bain, et ça m'avait rendue folle, quoi. Ouais. Parce que moi j'étais un peu, bah oui, je comprenais pas forcément, je me posais plein de questions, pourquoi il aime pas le bain, pour moi tous les enfants aiment le bain, et le fait qu'ils me disent ça, ça m'avait énervée, quoi. Mm. Mais c'est anecdotique, il s'avère que après il a adoré le bain. Je pense qu'il avait oublié que certainement ses enfants aussi au début avaient détesté le bain. Mais voilà, c'est juste
Et alors, comment ses enfants ont accueilli la nouvelle, donc Balthazar qui est ton fils, qui commence à, son arrivée a été accueillie, est-ce que ça a pu souder peut-être en quelque sorte tes liens avec eux? Puisque c'est un peu le maillon qui regroupe toute la famille.
Super bien, ouais. Les garçons ont super bien accueilli la nouvelle. Ils ont très bien réagi. On était en voyage à l'étranger quand on leur a dit. Donc peut-être qu'ils étaient dans de bonnes dispositions aussi. Mais on a attendu le bon moment. On a aussi bien choisi nos mots, à savoir... Non pas on va avoir un bébé, mais vous allez avoir un petit frère, la famille s'agrandit pour qu'il ressemble plus un symbole d'unité que l'éventualité d'un intrus qui allait débarquer dans nos vies. Donc non, ils ont très, très bien accepté ça et aujourd'hui c'est incroyable parce qu'ils adorent leur petit frère et il le leur rend bien. Et du coup, moi, j'ai vraiment le sentiment que la boucle est bouclée. Parce que, même si, comme je le disais tout à l'heure, ça s'est toujours très bien passé entre nous, les relations à la maison, moi, j'avais quand même l'impression d'être un peu l'étrangère au milieu de cette tribu. Et finalement, maintenant, je ne suis plus juste la compagne de leur papa. Je suis plus la pièce rapportée, je suis la maman de leur frère. Ouais. Et du coup, j'ai le sentiment que la boucle est bouclée. Mmh. Et Balthazar, c'est vraiment, en effet, le lien entre nous tous, quoi. C'est leur frère, c'est notre fils. Voilà, donc c'est un sentiment d'achever, quoi.
Ouais. Et d'ailleurs, au niveau de l'autorité, comment vous organisez? Est-ce que tu interviens dans la vie de tes beaux-fils ou c'est uniquement leur père qui gère? Ça se trouve, il n'y en a pas du tout besoin, mais bon, comme ils sont ados, j'imagine que parfois il faut intervenir. Ou alors, donc, est-ce que c'est leur père qui gère uniquement et toi tu t'occupes de ton fils ou, enfin, comment vous gérez ça?
Alors, c'est la règle qu'on s'est fixée, c'est moi je ne m'occupe pas de l'éducation des garçons, ce ne sont pas mes enfants. Mais en revanche, je suis la maîtresse de maison, donc je veille à ce que les règles de vie, les règles de la vie de famille soient suivies et respectées par tous. J'ai la chance d'avoir un conjoint qui est très impliqué dans l'éducation de ses enfants, qui est très présent pour ses garçons, donc qui les suit de près
et du coup au niveau de l'école, au niveau de l'éducation,
voilà. Et donc la règle c'est voilà, moi je suis là pour faire appliquer les règles de vie de la maison, mais aussi je suis au courant des instructions qui sont données par Greg à ses enfants et quand il n'est pas là, je peux veiller à ce qu'elles soient respectées. Là j'ai repris le boulot, mais j'ai pas travaillé pendant quasiment 2 ans. Et c'est vrai que du coup j'étais beaucoup à la maison. Pas facile parce que voilà, on est là, on voit ce qui se passe. Je ne suis pas censée intervenir, mais je suis quand même témoin d'un certain nombre de choses qui vont ou qui ne vont pas. Et voilà, mon rôle c'est quand même aussi de veiller à ce que par rapport aux règles que sont fixées par leur papa, les règles soient respectées. Voilà. Mais j'avoue que c'est un équilibre qui n'est pas facile à trouver, je tâtonne encore tous les jours, hein. C'est où est la limite, quand est-ce que j'interviens, quand est-ce que j'interviens pas, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux pas dire. Voilà, certainement parfois je suis maladroite, je vais trop loin. J'essaye au mieux de pas vraiment de pas intervenir dans leur éducation, mais c'est la frontière est parfois pas facile à trouver, quoi. Et le fait maintenant d'avoir moi mon enfant, mon propre fils, ça rajoute encore un événement en plus, pas facile à gérer, parce qu'il y a aussi moi l'éducation que je veux donner à Balthazar, et qui parfois c'est difficile de faire la part entre les deux éducations, parce que je sais pas, je dis n'importe quoi, pour l'instant c'est encore un bébé, mais la tenue à table, ben c'est compliqué de dire à ton fils, bon ben toi tu te tiens comme ça parce que je suis ta mère et je te demande de faire comme ça, mais par contre en face il faut ses frères qui font pas pareil parce que ils sont grands et qu'on les a pas élevés pareil, et voilà, l'enfant a aussi besoin de trouver ses repères. Greg te dira que c'est ce qui fait la force de ce schéma familial et de cette éducation, c'est qu'elle est riche de plein d'enseignements différents, de plein de repères différents. Mais moi, parfois, j'ai encore un peu du mal à trouver le bon dosage, les bons mots, voilà.
Et c'est, du coup, ça va se transcrire comment ? Est-ce que tu t'interdis de faire quelque chose par rapport à Balthazar parce que ses grands frères font différemment, ou c'est, est-ce que tu t'interdis d'imposer quelque chose aux grands frères pour...
Non, moi justement je me dis qu'il ne faut pas que je tombe là-dedans, il faut que je reste droite dans mes bottes par rapport à l'éducation que j'ai envie de donner à mon fils. Et puis bon, de toute façon ça, il est encore petit, donc c'est des questions que je découvre au jour le jour. Après, par rapport aux grands frères, bah, de temps en temps en fait je me dis que ça peut être une richesse aussi pour eux d'avoir une belle-mère qui peut aussi leur apporter son avis, et donc parfois j'essaye avec le plus de délicatesse et d'adresse possible de faire passer quelques messages en disant bah, ça pourrait être bien aussi que à table vous vous teniez comme ci, comme ça, pour telle et telle raison. Enfin, là, j'essaye de trouver les mots, d'être le plus adroit possible, mais voilà, pour aussi que ça leur apporte eux quelque chose, et du coup d'essayer d'avoir une espèce d'homogénéité dans la vie de famille, quoi.
Est-ce que tu as déjà eu la fameuse phrase « t'es pas ma mère, donc t'as rien le droit de me dire » ?
J'ai de la chance, j'ai pas encore eu la phrase « t'es pas ma mère », mais j'y pense tout le temps. Ouais. Et voilà, et si un jour je l'ai, bah, je répondrai « non, je ne suis pas ta mère, en effet, je ne suis pas là pour faire ton éducation, mais je suis quand même là pour faire respecter les règles de la maison, de faire en sorte que tu sois quelqu'un de respectueux et d'honnête. » Donc voilà, là je pense que j'ai la légitimité pour intervenir. Ouais.
Et donc on n'en a pas encore parlé, mais il y a donc une autre maman dans cette vie, dans cette famille recomposée. Est-ce que tu as des... enfin, quels sont tes liens avec elle?
Alors pour l'instant je n'ai pas de lien avec elle puisque nous ne nous connaissons pas. J'aimerais qu'on se connaisse, parce que justement je pense que c'est important dans la mesure où je vis avec ces enfants une semaine sur deux, et j'espère qu'un jour on arrivera à s'entendre pour justement arriver à s'aligner sur un certain nombre de points, mais voilà, aujourd'hui c'est pas le cas. Il n'empêche que ça, c'est aussi une découverte qui est venue progressivement, c'est que bah, elle fait quand même partie intégrante de notre quotidien, puisque ça reste l'ex-compagne de mon compagnon, et que tant que les enfants sont encore jeunes, ils ont beaucoup de sujets à traiter ensemble au quotidien. Donc voilà, bizarrement, même si je ne la connais pas, elle est vraiment très présente dans notre vie et dans ma vie, parce que ils ont encore beaucoup d'interactions, et parfois je reconnais que c'est pas toujours facile pour moi, parce que même au sein du couple j'ai un peu l'impression d'être un couple à trois, parce que toute décision est dépendante des volontés ou des dispositions de leur maman. Voilà, tout sujet doit être référé à une tierce personne, et du coup ça c'est parfois un peu bon.
Et puis au quotidien, c'est beaucoup d'appels.
Beaucoup d'appels, beaucoup d'échanges, de mails, de SMS, etc. Donc voilà, les choses, je pense, vont se tasser avec le temps, avec les années. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est encore très présent.
D'accord. Bon, et bien pour finir cette interview, on va passer aux petites questions beaucoup plus légères. C'est quoi pour toi d'être une maman parisienne ?
Ouh là là, c'est une maman parisienne. Alors, vaste question, puisque moi je suis en banlieue maintenant. donc c'est quoi être une maman parisienne ?
C'est peut-être partir en banlieue. Justement.
C'est peut-être partir en banlieue pour essayer de. Oui, parce que pour moi, la maman parisienne, c'est la maman toujours pressée, stressée. Voilà, donc nous, on est maintenant. Ça a été l'autre grand changement de ma vie. Hein, c'est que du coup, le fait de m'être avec quelqu'un qui avait une vie de famille, eh ben, j'ai quitté Paris pour m'installer en proche région, proche parisienne. Et dans une maison, donc il y a plein d'avantages, quand même, avant tout des avantages. Mais du coup, voilà, ma vie parisienne, je la vis de façon plus lointaine. Ouais. C'est un peu notre petite... maintenant, Paris, c'est notre petite escapade à deux, avec mon chéri. Quand on a envie de se retrouver un peu soufflé, ben, on retourne à Paris. Pour souffler, évidemment. dans nos traces, on a l'impression de revivre comme ça une deuxième jeunesse. voilà, c'est le pèlerinage, tous ces lieux où on sortait, les bars qu'on écumait quand on était un peu plus libre. Mmh.
Bah, du coup, j'allais te demander quel est ton endroit. Bah, peut-être que si, en fait, t'as un endroit kids-friendly où tu vas avec Balthazar notamment. Parce que avec les...
Ouais. Non.
Non, il n'y a rien de...
Tiens, réfléchis, est-ce que j'ai fait des trucs à Paris avec lui, kids-friendly?
Non, pas particulièrement. Non. Et quels sont tes projets en famille et ce, rien que pour toi ?
Les projets en famille, là, on programme un voyage dans les Cyclades cet été.
Super.
Donc, et c'est vrai que là, je dois dire que ce type de projet de vacances à 5, c'est top parce que, enfin, voilà, moi, je viens d'une famille nombreuse et c'est vrai que je reconnais que c'est quand même super sympa ces moments où on est tous ensemble, que les enfants entre eux s'entendent bien et que voilà, je sais que ça va rouler parce qu'ils vont s'occuper les uns des autres. Donc ça, c'est génial. Ça, c'est le projet des vacances en famille. Projet seul, projet détente seul, j'en ai pas trop. en revanche, j'ai des nouveaux projets professionnels je suis en plein dedans, là je suis en reconversion professionnelle parce qu'au milieu de tout ça il fallait aussi que moi je trouve ma place et donc c'est pas évident parce que j'ai un conjoint qui a de grosses responsabilités professionnelles, qui a un rythme très soutenu mais voilà, c'est important pour nous que j'ai aussi mes propres projets. J'essaie de jongler entre tout ça, une vie de famille qui est quand même dense parce que clairement les semaines avec un enfant et les semaines avec trois enfants, je les sens passer.
Oui, avec un tout petit et avec
un tout petit et les contraintes que ça représente, puis après un tout petit plus deux ados, plus un mari qui bosse beaucoup. Voilà, donc j'essaie de trouver un nouvel équilibre, mais je suis plutôt confiante. Et en plus, mes projets tournent autour de la petite enfance, donc c'est génial parce que voilà, je vais donner un lien à tout ça. C'est un projet qui va m'aider dans ma vie de tous les jours aussi. Mon bébé va m'aider dans ma vie professionnelle et ma vie professionnelle va m'aider avec mon bébé. Donc c'est chouette.
Super. Bah écoute, merci beaucoup Claire.
Et avec grand plaisir Shane. À bientôt.
À bientôt.
Un grand merci à tous d'avoir écouté Le Tourbillon. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre plein d'étoiles. Pour échanger sur le sujet abordé avec Claire, je vous invite à retrouver la photo sur Instagram grâce au hashtag Le Tourbillon Podcast. Et à laisser vos commentaires. À très vite pour un nouvel épisode.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.